Merci d'écouter le studio Kalangu. Il vient d'être à 18h. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La présentation de Fissa Adamou Sirfou. Au sommaire de cette édition, le 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine d'Addis Abeba prend fin aujourd'hui. Un nouveau président de la commission de l'UA a été élu et le président de la conférence des chefs d'État de l'UA remplacé. Les acteurs de la société civile nigérienne se prononcent dans ce journal. Ouverture hier à Diffa de la première session de la cour d'assises pour l'année 2017. Au total, 10 affaires criminelles seront examinées et jugées pendant une semaine. Enfin, dans la partie magazine, il sera question de la fin du séjour au Niger de Dr Fred Sauer, président international des organisations des sports paralympiques. Parmi les principaux acteurs évoqués dans l'émission Envoyé spécial de la chaîne française France 2, on retrouve Mohamed Akoté, le négociateur nigérien dont le rôle a été déterminant de la libération en 2013 des otages français enlevés 2 ans auparavant à Arlita. Pourquoi Akoté? Quel rôle avait-il joué? Détail dans ce papier de Tarnan Foudey Ahmed.
Ce matin, Mohamed Akoté était l'invité de la radio France Internationale où il s'est prononcé pour la toute première fois sur les négociations qui ont abouti à la libération des otages français enlevés à Arlit en 2011. Cité dans l'émission Envoyé spécial de la télévision France 2, diffusée la semaine dernière, Mohamed Akoté a confirmé qu'il a effectivement été mandaté par le président du Niger pour participer à ces négociations. Il avait alors pris à tâche les hommes d'Abu Zaïd, le chef de la branche terroriste qui détenait les Français. À propos du montant de la rançon, Akoté a déclaré ceci. « J'ai donné ma parole que je ne parlerai jamais de certaines affaires qui se sont passées sur le terrain. Cela, je ne le ferai jamais. » À la question de savoir si le versement a été intégral ou s'il manquait une partie de l'argent, le négociateur Akoté a répondu « Je vais vous dire une chose. Quand les djihadistes demandent une chose et que vous avez convenu ensemble que cette chose-là leur sera donnée, si vous ne tenez pas parole, vous n'aurez jamais, jamais, au grand jamais, ce que vous cherchez, à savoir la libération des gens qui sont avec eux. » Malgré les réponses de Mohamed Akoté sur RFI, beaucoup de questions restent encore sans réponse dans cette affaire sombre.
Je l'annonçais dans les titres, le 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine d'Addis Abeba a enfin permis l'élection d'un nouveau président de la commission de l'UA et le remplacement du président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Que peuvent attendre de cette institution les populations africaines? Pour Maman Kakatoudou, responsable en charge des questions de la jeunesse à Alternative Espace Citoyen, les défis socio-économiques et sécuritaires sont les plus grandes attentes des populations en Afrique. On l'écoute.
Nous sommes confrontés au problème du chômage, nous sommes confrontés au problème de l'emploi, nous sommes confrontés à énormément de problèmes. Et les défis restent graves. Il faut que nos chefs d'État et de gouvernement vraiment puissent se convaincre que investir dans la jeunesse, c'est vraiment investir dans le développement de l'Afrique. Il ne faut pas que notre taux démographique soit vraiment une source de problème pour eux, mais plutôt ils doivent considérer comme un atout majeur qu'ils doivent mettre en valeur si on veut que le continent africain progresse. Tant qu'on n'a pas cette mentalité. Quand on pense que le fort taux démographique de la jeunesse constitue une menace, de là, je pense qu'on a déjà tout raté. C'est ce qui explique la question de cette question de radicalisation, de l'extrémisme violent qu'on ne connaissait pas avant. Aujourd'hui, nos États sont obligés de faire face à cela. Après plus de combien d'années d'indépendance, on continue à utiliser l'argent des autres. Je pense qu'aujourd'hui, la question d'avoir notre monnaie unique et d'abandonner le franc CFA, c'est une question capitale.
Propos recueillis par Mokhtar Hamadou. C'est l'un de nos titres également, ouverture hier lundi à Diffa de la première session de la cour d'assises au titre de l'année 2017. Au total, 10 affaires criminelles impliquant 12 personnes seront examinées et jugées pendant une semaine. Moussa Boubacar Harissou, premier substitut au tribunal de grande instance de Zender, explique au micro de Adam Baboukarna.
Les affaires criminelles impliquent 12 personnes qui sont jugées. Il y a un cas d'assassinat. L'assassinat, comme vous le savez, c'est le fait de donner la mort volontairement et aussi le prémédité. C'est ça la différence avec le meurtre. Et un cas de meurtre suivi de coups et blessures volontaires avec armes et détention illégale d'armes à feu. Il y a un cas de tentative de meurtre. La tentative, donc, c'est le fait de commencer et que ça soit suspendu par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Suivi de coups et blessures volontaires aussi avec armes. Il y a un cas de viol. Aggravé, c'est un viol commis sur une mineure de moins de 13 ans. Un cas de viol simple et 4 cas de coups mortels avec arme. Les coups mortels avec arme, c'est le fait de porter des coups volontairement sans intention de donner la mort, mais que les blessures provoquées par ces coups entraînent la mort. Donc l'auteur des coups n'avait pas l'intention de donner la mort, il a donné ses coups, mais la mort s'en est suivie. C'est ça la différence avec le meurtre où on a délibérément voulu donner la mort et on l'a donné.
Vous venez là d'entendre Moussa Aboubakar Harissou, premier substitut au tribunal de grande instance à Deuzender. Regrouper les populations des villages des alentours du canton de Maine-et-Sorwa et échanger avec elles sur les questions de sécurité, de paix, de civisme, de migration irrégulière, c'est l'objectif visé par le forum tenu du 27 au 29 à Maine-et-Sorwa dans la région de Diffa, à l'initiative de deux parlementaires de la région. Ce forum a regroupé l'ensemble des groupements peuls qui gravitent autour de Maine-et-Sorwa, les chefs coutumiers et religieux, les acteurs de la société civile, ainsi que les autorités administratives et municipales. Gungu Mahamad Dantani s'est entretenu ce matin avec une participante, Madame Gogé Maimouna, directrice générale de l'Association nationale de lutte contre la traite des personnes, que je vous propose d'écouter.
Il a été organisé un forum sur les questions de paix, de sécurité, de civisme, de migration irrégulière entre deux localités de la région de Diffa. Le forum avait pour objectif de faire venir l'ensemble des groupements peuls tout autour de Maine-et-Sorwa pour discuter des enjeux de la sécurité, de l'éducation des enfants, du civisme, de la migration irrégulière et vraiment de l'avenir de ces communautés. Et nous, en tant qu'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, nous avons appuyé le projet parce que nous estimons qu'il était très pertinent qu'elle donne les situations d'insécurité. Beaucoup de citoyens se déplacent. Il était important qu'on attire leur attention sur les dangers inhérents à la migration irrégulière que souvent, dans le cas, les déplacés et les réfugiés rencontrent beaucoup de difficultés et sont exploités dans le domaine de la traite. Et c'est pour ça que nous avons accompagné ce projet.
Propos recueillis par Gungu Mahamad Dantani. L'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN, organise depuis hier à Maradi un forum des acteurs sur la sécurisation de la transhumance transfrontalière Maradi-Kassina. Les participants venus des deux pays vont durant deux jours réfléchir sur les voies et moyens pour trouver des solutions aux multiples problèmes auxquels les éleveurs des deux pays font face pendant cette transhumance. Pour Salissou Abdou, chargé du programme de l'AREN, le problème crucial reste à l'insécurité sur les frontières.
Les problèmes sont multiples. D'abord, il y a l'insécurité, le vol, des fois et même les pertes de vie. Nous avons aussi le problème de couleur de passage et les textes même qui régissent la transhumance entre les États.
Il y a aussi le commerce.
Le commerce a une valeur ajoutée parce que nous allons profiter des assises pour réfléchir sur la fluidité du commerce des animaux entre le Niger et le Nigeria.
Comment vivent les éleveurs des États? Est-ce que c'est vraiment crucial?
Le problème est vraiment récurrent et crucial, comme vous le dites. Le représentant de la délégation du Nigeria l'a dit, ils ont saisi 28 000 têtes d'animaux. On n'est rien qu'au Nigeria. C'est-à-dire que le problème est important au vu du nombre d'animaux saisis. Ça, c'est aux côtés du Nigeria. Voilà pourquoi nous voulons prendre le problème à bras le corps et faire des ébauches de solutions à ce problème.
Les enseignants-chercheurs de l'Université de Zender observent un arrêt de travail depuis le lundi 23 janvier. Cette grève bloque ainsi toutes les activités académiques à l'université. Pour rappel, ces enseignants revendiquent toujours le paiement des arriérés de salaire sur au moins 4 mois. Selon le secrétaire général du syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur section de Zender, Ilou Mahamadou, que nous avons joint au téléphone, c'est toujours le statu quo. Aucune négociation n'est envisagée.
Depuis le 23 décembre, quand nous avions déposé un préavis de grève, ça a été suivi par un appel à la droit de l'administration électorale de créer les conditions d'un dialogue entre eux et nous pour qu'on puisse voir quelles sont les voies et moyens dont on dispose pour éviter la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc cette lettre que nous avions envoyée était restée lettre morte. Ensuite, nous avions envoyé 3 lettres également dans lesquelles nous invitions l'administration électorale à créer les conditions de dialogue. Ça aussi, on n'a pas eu de réponse par rapport à ces 3 courriers. Avec le ministère de tutelle, on n'a pas eu directement à échanger sur la question. Mais je dois reconnaître qu'en fin de semaine passée, avec l'administration électorale, on a eu une sorte de causerie, parce que je peux appeler ça causerie, au sein de laquelle ils ont demandé juste qu'on arrête notre modèle de grève et en retour, il n'y a rien qui propose.
Propos recueillis par Adama Dawaki. Éducation toujours, l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques du Niger UEPTN a lancé ce matin à Niamey un ultimatum de 48 heures aux autorités pour exiger la prise en compte des revendications de ses militants. Nassirou Moukaila, secrétaire général de l'UEPTN au micro de Asmana China.
Nous avons dit on en a assez par rapport à ces écoles-là qui nous forment mal, par rapport à ces écoles qui nous enseignent dans des frilets qui ne sont pas autorisés et par rapport à ces écoles-là qui sont en train d'exercer en violation flagrante de la réglementation. Maintenant, nous ne donnons plus un temps. Nous avons dit, nous exigeons la fermeture immédiate de ces écoles-là. Imaginez une école, on vous forme en droit, en fin de formation, on vous délivre un diplôme en communication. Vous allez être un juriste ou un journaliste, nous nous posons la question. Vous imaginez une école de santé où on forme des étudiants en santé. C'est dans une maison, 3 chambres salon, ni infirmerie, ni laboratoire. Il n'y a pas de travaux pratiques. Nous nous posons la question si véritablement on est en train de former des agents de santé, des médecins ou des criminels.
C'est toujours le statu quo à la ville de Niamey après 5 jours de sit-in et la médiation du Premier ministre au sujet de la revendication par les agents des collectivités territoriales de 7 mois d'arriéré de salaire. Le syndicat compte multiplier les mouvements dans le but d'avoir le dû de ses militants. Écoutons les explications du coordinateur du syndicat section Niamey, Ayouba Korombe, au micro de Habibou Garba.
Ce qui est sûr, nous en tant que syndicalistes, on ne peut pas venir s'asseoir, bien que le PM nous ait demandé d'aller travailler, de faire le travail convenablement, d'aller toujours au travail, sans pour autant réclamer quelque chose, sans faire de déclaration, sans faire de sitting. Nous, syndicalistes, on ne peut pas venir s'asseoir sur nos droits. Et pourquoi aujourd'hui la fonction publique, avant même la fin du mois, on fait le virement? Les contracteurs qui ont commencé les grèves, pourquoi aujourd'hui on s'est demandé à les payer, les contracteurs de l'éducation? Et aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas nous aider? Donc nous aussi, on va sur le temps. On ne va pas rester sans rien faire. Il faut qu'on nous paye. Tant qu'il y a nos émoluments qui ne sont pas payés, on va toujours faire des mouvements de grève. Et nous envisageons aujourd'hui de faire une marche. Bientôt, on va demander l'autorisation pour faire la marche au niveau de la ville de Niamey. On va inviter tous les militants et militants à venir faire cette marche à partir du mardi 8 février 2017. Donc nous allons, dessus le temps, nous allons multiplier nos activités pour pouvoir sortir en tout cas nos salaires.
À présent, la partie magazine de cette édition, Dr Fred Sorel est le président international des organisations des sports paralympiques. Il vient de terminer un séjour de 3 semaines à Niamey avec pour objectif initier les personnes en situation de handicap au sport des amputés. À l'occasion de son départ hier lundi, un match de football des amputés a été organisé à son honneur. Suivez ce reportage de Habibou Garba.
Vous remettons ce tableau de 21 médailles du Niger.
C'est avec ces mots d'au revoir envers Dr Fred que le président national des Jeux paralympiques Harouna Ousmane a procédé à l'ouverture de la cérémonie organisée à cet effet. Une cérémonie qui a vu la participation de plusieurs personnalités dont le ministre en charge de la jeunesse et des sports, l'ambassadeur des États-Unis au Niger, directeur général des sports et plusieurs personnes handicapées. Notons que si le Niger avait participé aux Jeux paralympiques de Rio 2016, c'est grâce aux efforts de Dr Fred, avait affirmé le président national des Jeux paralympiques Harouna Ousmane. La Fédération nigérienne des sports paralympiques salue les efforts de Fred.
Dr Fred, vous avez introduit notre athlète paralympique Balkissa Amadou Mamadou qui était à Rio. Avant notre départ pour Rio, elle marchait sur ses genoux. Mais avec l'appui du Dr Fred, Balkissa peut maintenant marcher. Et avec l'équipe de physiothérapeutes ou de kinés américains qui étaient là, en tout cas, elle a subi une rééducation, elle continue. Et avec le temps pour Tokyo 2020, nous espérons, avec l'appui de notre ami Dr Fred, que Balkis va même courir. Elle va faire l'athlétisme paralympique.
L'émotion est grande. Je suis plus aimé au Niger qu'au Texas, pays natal, a déclaré l'associé des personnes handicapées avant de justifier pourquoi une telle initiative envers les personnes handicapées.
Comme vous voyez, il y a un bon avenir. Il y a un jeune enfant de 12 ans là-bas. C'est le prochain Messi. Je souhaite bonne continuation, M. Harona, toute la fédération. J'ai passé quelques semaines ici, mais c'est comme je suis né ici. C'est un accueil excellent, même au Texas, nous sommes très accueillants, mais je pense même plus ici, donc du Niger. Donc, Ibalkisa, nous souhaitons qu'au Tokyo 2020, elle va vraiment courir avec vitesse et elle va arriver jusqu'au podium pour l'honneur de son pays natal, Niger.
Selon les responsables en charge des sports des amputés, l'arrivée de Fred au Niger est un signal fort, une manière de booster les Jeux paralympiques à se développer et obtenir, pourquoi pas, une médaille aux prochains Jeux de Tokyo. Habibou Garba, Studio Kalangou.
Ce journal est à présent terminé. Merci de votre attention. Retrouvez Hamadou Momouni pour le forum du Studio Kalangou. Au revoir.